maintenant un bon podcast.
Maintenant un bon podcast. Et maintenant un bon podcast.
Et bonjour à toutes et tous, un grand plaisir de rencontrer une personne qu'on avait rencontrée l'année passée, qui s'appelle Emmanuel Beltrando. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Et à l'époque, on parlait d'un jeu qui était édité en cours d'édition chez Monster Games. Maintenant, il est sorti, on sait comment il s'appelle Gozu, et c'est un succès. C'est quoi le sentiment d'Emmanuel Beltrando maintenant, un an après ?
Le sentiment, oui, ça a été un succès, on s'y attendait pas autant que ça. C'est-à-dire qu'on a fait un premier tirage qui était très correct, qui a été épuisé en 7 jours. Le jeu marche bien en France, il marche bien à l'étranger, il a une bonne presse. Il a beaucoup d'articles sur la blogosphère, vraiment un peu partout. Donc on retire, on est en train de regarder différentes traductions possibles. Je dirais un avis plutôt très positif au bout d'un an, oui.
Tu te l'as dit, la première semaine, il y avait un tirage de 3000 boîtes qui est parti
Ouais, le premier tirage est parti en 7 jours.
Quel est le sentiment que tu as par rapport à ça, justement, en se disant le jeu me plaisait. Bon, il marche, c'est très bien, mais là, il va au-delà de tes espérances. Ça veut dire quoi? Qu'il y avait un créneau, ou qu'il y avait une demande, ou que ça répondait à quelque chose qui n'existait pas encore, ou qui n'existait plus?
Non, je pense pas que ce soit un nouveau créneau ou une demande particulière. Il se positionne dans le milieu du jeu de cartes, même s'il se présente un peu comme un jeu de société. Sauf qu'il arrive dans un milieu de jeu de cartes qui est, pendant des années, plein de produits ont essayé de concurrencer ce qui se faisait de mieux, comme Magic et autres. Peu ont réussi, les gens avaient un peu abandonné l'idée de concurrencer ça, enfin de concurrencer, d'essayer un petit peu d'être sur la même cible. Gozu se positionne par rapport aux joueurs justement de jeux de cartes et autres qui veulent, entre deux parties de Magic ou entre deux parties de Yu-Gi-Oh! Ou autre, jouer à autre chose. Donc il a eu un très très franc succès sur les joueurs de jeux de cartes et après bien sûr sur les joueurs de jeux de société. Mais c'est vrai que c'est pas une segmentation très particulière ou quelque chose de nouveau. Il a pas créé un marché ou il a pas créé des cibles. Il est arrivé à un endroit où des gens l'attendaient. Mais il y a plein de produits identiques à Gozu qui sortent chaque année, sauf que Gozu était, je pense, supérieur à la majorité de ces produits-là. Il était bien testé, il était bien fini. Alors il a des petits défauts, certes, selon les avis des uns et des autres. Mais voilà, non, c'était juste le bon produit au bon moment, mais ça n'a pas créé de marché nouveau ou de cible nouvelle en tout cas.
Tu veux dire que ce qui était bien pensé en choisissant ce jeu-là, c'est que c'est un jeu charnière en fait, entre deux mondes.
Exactement. C'est un vrai jeu charnière entre le joueur de jeu de cartes qui est vraiment un joueur à part du joueur de jeu de société et le joueur de société. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est aperçu pendant le premier mois que le jeu s'est énormément vendu dans les joueurs de jeu de société parce que c'est là où avait eu lieu la plus grande partie du buzz, la plus grande partie des démos, etc. Et que les joueurs de jeu de cartes l'ont découvert un petit peu doucement et puis là, il est en train de prendre de plus en plus de place dans l'univers du jeu de cartes. C'est-à-dire que les joueurs de Magic et autres l'achètent pour avoir un petit jeu de cartes auquel jouer le soir entre potes, entre deux parties de Magic. Quoi. Donc il va se trouver vraiment un second public là-dedans qui peut être très intéressant.
Alors tu parlais de buzz justement, tu as basé ta communication en tant que Monster Games sur l'édition d'un site web épuré, simple, dans lequel il y a des news qui sortent, et tu as utilisé tout ce qui existait à l'heure actuelle de réseaux sociaux et de communication. Tu penses que c'est ça le média pour communiquer au niveau du jeu à l'heure actuelle?
Oui. J'en suis persuadé. C'est-à-dire que la communication était basée sur envoyer des avant-premières, des choses à des sites importants, donc différents sites ou blogs, et ensuite une grosse communication sur le propre blog de Monster Games, énormément de communication sur la page Facebook, où on voyait que certains articles étaient repostés par les gens 20, 30, 40, jusqu'à 70 fois. Donc si on se dit que 70 personnes repostent sur leur page Facebook un article, si on voyait une personne à 150 amis, on dépasse tout de suite les 10 000 personnes qui voient un article, donc ça devient très intéressant.
Pour un éditeur qui se lance, justement, c'était ton cas, c'est une manière de tester le marché à moindre frais.
Ah oui, à moindre frais, oui, à moindre temps, non.
Il faut de l'expérience, il faut trouver la manière de le faire, ça c'est certain.
Oui. L'idée c'est de rester autour de l'idée du buzz, c'est-à-dire qu'il y a des news régulièrement, mais que ce soit sur le blog, que ce soit sur la page Facebook, que ce soit sur le Twitter, ouais. Il y a régulièrement des petites infos buzz qui sortent, que voient que très peu de personnes, mais ces gens-là rediffusent l'information, ou on reparle, ou... Voilà, l'idée c'est de créer une base de joueurs qui... intéressés par le produit, intéressés par le jeu, qui suivent ça. On a vraiment des joueurs qui suivent toutes les infos, sites, Facebook, Twitter, et qui cherchent, parce qu'il y en a toujours, des toutes petites, des petits clins d'œil pour expliquer ce qui va arriver dans la suite, quoi.
Est-ce que ça veut dire que c'est comme ça qu'on peut tester une idée ? Ça y est, tiens, je mettrais bien ça dans le jeu, je la lancerai comme ça, comme buzz, pour voir comment les gens l'utilisent ?
Alors, pour une idée en termes de background, de choses comme ça, oui. Maintenant, pour du gameplay, non, forcément, on ne peut pas passer à côté du test grand public.
Alors, en 20 secondes, Gozu, c'est quoi ?
C'est un jeu de cartes de 2 à 4 joueurs, non à collectionner, c'est-à-dire qu'on achète une boîte, on a tout ce qu'il faut. Ça se joue entre 20 et 60 minutes. C'est un jeu qui, son défaut, c'est sa prise en main, c'est-à-dire qu'il faut entre 2 et 4 parties pour bien le prendre en main. Par contre, au-delà de ça, ça devient un véritable jeu de combinaison. Très très agréable. On peut bloquer, c'est-à-dire qu'on peut ne pas comprendre comment ça fonctionne, on peut juste ne pas, voilà, mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, une fois qu'on a compris qu'on ne subit pas du tout le jeu, mais justement c'est nous qui faisons le jeu au fur et à mesure, ça devient, je pense, un des meilleurs jeux de cartes qui a été édité ces dernières années, quoi. Une très très grosse rejouabilité, c'est sûr que moi là j'en suis à peu près à 500-600 parties, donc je pense avoir fait le tour du jeu maintenant quand même, mais je pense qu'on peut faire une bonne centaine de parties avant d'en voir le bout et d'avoir fait le tour des combinaisons, ce qui est justement un petit peu d'ailleurs ce qui va être le truc intéressant avec l'extension qui sort au mois de mars, c'est que l'extension propose 5 nouveaux clans. Au début de la partie, on va drafter 5 clans sur les 10, ce qui nous donne 252 combinaisons de parties différentes. Plus d'un million de combinaisons de cartes possibles. Donc là, autant on arrivait à faire le tour avec la boîte de base, autant avec l'extension qui en plus emmène une tonne de nouveaux concepts, vraiment. C'est-à-dire que le jeu de base était un jeu simple. L'extension est un peu plus compliquée. C'est des choses qu'on n'avait pas voulu mettre dans la base parce qu'on voulait que la base soit accessible. On se dit que les gens qui achètent l'extension, ils ont compris la base, donc on peut leur mettre des choses un peu plus compliquées. Donc l'extension emmène une richesse en termes de gameplay, de stratégie, de combinaison assez importante, et 252 combinaisons de parties différentes et des millions de combinaisons possibles, là, ça devient... Avant de faire le tour, il y aura des mois et des mois et des années.
Tu veux dire que l'extension n'apporte pas que des nouveaux gobelins, il y a aussi des méthodes, des tactiques de jeu différentes ?
Exactement, il y a des nouvelles, enfin il y a des nouveaux effets, des nouvelles façons de déclencher les effets, des nouveaux types de cartes. Chez les gobelins, il y a des recruteurs, donc c'est des cartes qui ont des pouvoirs spécifiques par rapport à leur placement, par rapport au coup de pose. En fait, la grosse différence entre l'extension et la base, c'est que la base, il y avait beaucoup de cartes qui faisaient piocher. Et autour de ça, des cartes pour faire des combinaisons. L'extension, c'est l'inverse. Il y a énormément de cartes de combinaison qui font piocher, mais une fois que la combinaison est mise en place. Donc ça demande plus de stratégie, plus de s'adapter, parce qu'à chaque partie, on va quasiment jouer avec une combinaison de 5 clans différents. Donc la prise en main va être, je dirais, encore plus longue, mais sauf que comme on a joué à la base, après, c'est un peu plus facile aussi pour prendre le jeu en main, quoi.
Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil tactique pour quelqu'un, quelqu'un qui a fait le plus de parties de Gozu au monde, je pense. Qu'est-ce que tu proposes comme approche tactique, comme ouverture, qu'est-ce que tu pourrais dire ? Tiens, ça, c'est vraiment une bonne manière de démarrer.
Alors, bah déjà, je conseille de jouer, dès que les gens ont fait 3, 4, voire 5 parties, je conseille de jouer avec les règles de tournoi. Donc, il faut drafter la main de départ. C'est-à-dire qu'on prend cette carte. Chaque joueur prend cette carte, on en prend 2 parmi les 7, on donne des 5 à l'adversaire, on récupère les 5 adversaires, on en prend une. Donc en fait, on sélectionne une main améliorée avec son adversaire ou ses adversaires. Donc déjà, ça permet d'avoir une main un peu plus équilibrée. Ensuite, en termes de stratégie, ce qu'il y a deux choses importantes, c'est un, pendant la première ronde, ne pas ouvrir 3 ou 4 couleurs, parce que ça va faire dépouiller la main à une vitesse incroyable. Il faut rester sur une ou deux couleurs. Voilà, on peut ouvrir par la suite. Mais descendre ses cartes en main pour ouvrir 3-4 couleurs, sauf contre-exemple, mais c'est assez rare, vaut mieux laisser sur 2 couleurs la première ronde en tout cas. Il faut s'adapter énormément au jeu de l'adversaire. Il ne faut pas jouer dans son coin, c'est-à-dire qu'il faut essayer de regarder qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il peut activer, est-ce qu'on peut empêcher son activation. Il faut essayer de le faire défausser au bon moment, c'est-à-dire que les gens souvent font défausser un peu n'importe quand les cartes en main. Il faut faire défausser toujours son adversaire quand il est entre 4 et 3 cartes en main, parce que en gros c'est le coût moyen d'une mutation. Mutation à 3, il faut la 4ème carte. Si on enlève la 4ème carte, il ne peut plus muter. Ouais. Donc bloquer l'adversaire. Il ne faut pas subir le jeu. Ce n'est pas parce qu'on pioche une carte qu'on est obligé de la jouer. On peut stocker des cartes en main, perdre une ronde, voire deux rondes, essayer de revenir avec un peu plus de stock.
Tu veux dire que c'est plus un jeu de blocage plutôt qu'un jeu de développement dans son coin ?
C'est surtout un jeu de contre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très rare. Alors sur les premières parties peut-être, mais là je vois, j'ai encore fait 4 parties tout à l'heure avec Yann. C'est un jeu où il faut vraiment s'adapter à l'adversaire. Donc les parties se sont vraiment jouées sur contrer le piocheur. Donc on va dire qu'il y a 4-5 cartes dans le jeu qui sont très fortes pour piocher. Dès qu'il y en a une qui sort en face, il faut soit l'éliminer, soit l'emprisonner, quoi. Donc, et bah, ça nous coûte des cartes, ça nous coûte des effets, mais ça fait gagner la partie forcément, parce que si on enlève le pusher en face, tout se complique. Donc c'est vraiment un jeu où il faut s'adapter à l'adversaire et le contrer. En même temps, il faut aussi s'adapter à ses couleurs. Donc forcément, on ne peut pas dire « tiens, je veux gagner comme ça » si on a les couleurs d'une, les cartes d'une autre couleur. Et l'idée, c'est qu'au bout d'un moment, on se dit « voilà, je m'adapte à mon adversaire, je sais ce que je joue, il me faut globalement 7 ou 8 cartes pour aller dans mes stratégies. » Et le but, ça va être d'essayer de les piocher, pour d'en piocher 2 sur les 7 pour améliorer au mieux sa stratégie. Et selon les couleurs qu'on a choisies, ben, y a des stratégies de pioche ou de destruction ou de défausse qui fonctionnent mieux que d'autres. Donc on s'adapte et énormément à ces couleurs. C'est sûr que si on joue bleu-vert, on a plus de chances de faire de la pioche récurrente que si on joue rouge-noir. Quoi. Donc, mais rouge-noir, il y a d'autres combinaisons à mettre en jeu de destruction récurrente et de défausse qui font gagner dès la ronde 2 si on arrive à les mettre en place. Quoi.
Tu parlais d'une extension, est-ce qu'on peut avoir un ou deux exemples de choses qu'on va retrouver dans cette extension?
Alors, ouais, j'ai plusieurs petits exemples. Déjà, on parlait des nouveaux types de cartes, ce sont les recruteurs. Donc, ce sont des porte-drapeaux. Il y en a un par clan de gobelins. Il faut savoir que dans l'extension, il y a 5 nouveaux clans, mais simplement 4 de gobelins. Le 5e clan, c'est pas encore dévoilé, mais ça sera la première race hors gobelins. Donc, les 4 clans de gobelins ont un porte-drapeau. Le porte-drapeau, c'est quoi? Il a deux pouvoirs. Tous les porte-drapeaux ont deux pouvoirs fixes, donc c'est des niveaux 1. Donc, il y en a 2 par clan. Les deux pouvoirs fixes et un pouvoir variable selon le clan. Les deux pouvoirs fixes sont les suivants. Le premier, c'est à la fin de chaque ronde, si le porte-drapeau est la première carte de votre armée, donc c'est-à-dire la première en bas à gauche, vous piochez une plus une carte. Donc son placement est important, sachant qu'il y a beaucoup de cartes dans l'extension qui permettent d'inverser deux cartes. Donc vous pouvez les positionner. Le deuxième pouvoir du porte-drapeau, c'est recruteur. Recruteur, ça signifie que la prochaine carte qui est posée à sa droite, hors mutation, est gratuite. Donc ça permet de poser une carte d'un autre clan gratuitement. Voilà. L'inconvénient du porte-drapeau, c'est lorsqu'il est détruit, tous vos adversaires piochent une carte. Bon, en tout cas, c'est une très bonne carte à drafter au début de partie. On la pose, si l'adversaire ne peut rien faire tout de suite, ça permet de poser une deuxième carte gratuitement, donc ça c'est pas mal. Elle fait gagner deux cartes tout de suite. Maintenant, souvent, si on voit. Enfin, on va souvent prendre une carte pour essayer de la détruire dès le premier tour, ou en tout cas l'emprisonner pour pas qu'elle reste. Donc ça, c'est le premier nouveau type de carte. Après, on peut donner des nouveaux exemples de cartes. Par exemple, il y a une carte. Dans l'idée des stratégies et des combinaisons, c'est un niveau 2. Lorsqu'une une carte qui se situe à sa gauche ou à sa droite est activée, donc en posant son activation, on pioche une carte. Donc son placement est très important parce que ça permet de piocher des cartes selon ce qu'on a mis à droite ou à gauche. Un autre exemple, il y a une carte dont le texte, le pouvoir et le coup de mutation est exactement le même que celui qui est à sa gauche. Donc ça permet de cloner une carte, d'avoir une carte à deux. Un autre exemple, les gobelins de l'ombre, donc qui sont le nouveau clan qui utilise l'emprisonnement entre autres, ont un nouveau type d'activation, c'est-à-dire qu'ils ont des pouvoirs assez puissants, mais pour les activer, donc il n'y a pas besoin de jetons d'activation, il faut juste emprisonner la carte. Donc on s'emprisonne sa carte, elle fait un super pouvoir, mais on ne peut plus l'utiliser et puis on perd son équivalent, son point d'armée. Voilà, donc il y a plein de nouvelles choses comme ça, plein de nouveaux concepts, plein de nouvelles façons d'aborder le jeu qui permettent de énormément renouveler le...
L'extension a été développée avec l'auteur?
Ah oui, avec l'auteur, et puis on est trois testeurs, enfin je fais partie des trois testeurs à travailler dessus quasiment tous les jours. Quoi.
Alors donc Gozu, on l'a pas dit, mais ça veut dire Goblin Supremacy. Le thème de Gozu est très gobelin. Pourquoi avoir mis ce thème-là?
À l'origine, c'est du médiéval fantastique, mais je voulais pas faire du médiéval fantastique parce qu'il y en a beaucoup trop. Le futuriste, j'aime bien, mais j'avais peur un petit peu qu'avec la proximité, même si c'est pas vraiment le même de Race of Force the Galaxy, je voulais pas que les gens fassent ça soit trop proche. Je voulais faire du steampunk parce que j'adore l'univers steampunk de façon générale. Sauf que steampunk, ça marche pas. C'est un univers qui ne fonctionne pas. Donc on s'est dit, on va faire un truc très original, on va faire du steampunk avec un monde un peu médiéval fantastique. Donc on a collé ça sur des gobelins, parce que c'est la race la plus exploitable en termes de conneries. C'est-à-dire qu'on pouvait vraiment faire tous les clans possibles, on voulait mettre beaucoup d'humour dans le jeu, donc les gobelins s'y prêtent énormément, plus que des elfes ou des nains, quoique les nains c'est assez marrant aussi. Mais en tout cas on ne peut pas faire 40 races de nains différentes, tandis que les gobelins je pense qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. Quoi.
Ok, cet univers est en train de s'étendre vu que bon, il y a aussi un succès lié au fait que les joueurs aiment cette logique-là, ils aiment découvrir les différents gobelins qui sont sur les cartes. Tu es en train de développer un comics ou une bande dessinée là-dessus?
Oui, alors on a, en plus de l'extension qui sort au mois de mars, on a deux comics qui vont sortir en 2011 qui racontent l'histoire de l'Abdad, qui est un niveau 3 gobelin chez les alphas. Donc le comics va raconter son ascension du niveau 1 jusqu'au niveau 3. Donc un peu de découverte du monde, un petit peu de background. Alors on va pas être dans du comics avec beaucoup d'histoires, background et des longs dialogues. On va expliquer ce qui se passe, mais globalement ça va être de la baston. C'est de l'action comics. Hein. C'est de la baston, beaucoup de scènes marrantes, c'est des grosses blagues. Ça va être un produit assez fun.
Okay. Ça s'est installé comme ça ou bien c'est tout d'un coup une idée que c'est dit, tiens on pourrait rajouter ça au jeu?
Je sais vraiment pas comment c'est venu. On voulait faire un bouquin, un vrai bouquin du background de Gozu. Puis on s'est dit finalement ça serait mieux de faire une BD. Puis finalement on est arrivé sur un format indépendant entre le BD et la comics, quoi. Mais non, ce qui a poussé c'est que les gens aiment beaucoup le thème, l'univers, les dessins. Donc on a parlé à Bertrand Benoît qui a bien voulu jouer le jeu. Il a dit ouais ok je suis chaud. Il n'a jamais fait de comics, nous non plus, donc on va apprendre, on va se glander, mais on va se marrer. Quoi.
Et le côté background, ça a été aussi développé par Monster Games.
Ouais, alors là, on a un gros background qui est développé par Cyril et moi-même, donc deux associés de Monster Games. Là, on a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, en fait, par exemple, le background de l'extension, savoir que le background du jeu, si on a 3 minutes, en 2020, l'Europe va lancer en principe, si l'économie ne se casse pas la gueule d'ici là, va lancer un vol habité dans l'espace. Et on est parti de ce postulat pour se dire que ce vol passait à travers un trou de ver et atterrissait quelque part ailleurs dans la galaxie et se crachait sur une planète. Donc, pas du tout la planète des singes. Hein. Donc, c'est notre planète, c'est pas la même dans le futur. Quand ils se crachent sur cette planète, ils sont recueillis par les anciens gobelins. Donc il y a un clan de gobelins sages qui va les aider, les soigner, etc., etc. Et qui vont les héberger parce que la planète est en conflit permanent, en guerre entre toutes les races. Il y a énormément de races sur cette planète qui est très très grande. Hein. En échange de ça, en échange de tout ce qui se passe, les humains vont ouvrir toutes leurs bases de données qu'ils avaient avec eux, parce que quand ils sont partis, ils avaient des bases de données qu'ils étaient prêts à échanger en cas d'une rencontre avec Satas, etc., le grand trip. Sauf qu'ils ils vont donner accès à toute la technologie, l'histoire des technologies aux gobelins. Donc c'est de là où arrive le côté steampunk dans le jeu, c'est que les gobelins, via les anciens gobelins qui n'ont jamais dévoilé la présence des humains sur la planète, vont commencer à dire, regardez, on peut traiter ces matériaux, on peut faire du métal, on peut créer des armes, on peut créer des robots, etc. Et c'est grâce à cette technologie emmenée par les humains que les gobelins vont gagner, je dirais, la grande bataille sur le continent principal. Donc toutes les autres races fuient le continent principal à cause de la gobelin suprématie, justement, et donc vont immigrer sur les autres continents autour, etc. Et donc, 80 années se passent après que les gobelins aient gagné. Ils continuent leur guerre entre eux, mais ça, c'est parce que c'est plus une religion qu'autre chose. Hein, quand la lune sanglante est là, il faut se bastonner parce que c'est assez marrant. Sauf qu'au bout de 80 ans, Kamakor, qui est un ancien gobelin niveau 3, décide de faire ce qu'on appelle le traité de Kamakor. Il offre la possibilité à toutes les anciennes races, pour ceux qui le désirent, de revenir sur le continent principal, donc c'est-à-dire de refaire du commerce, de rejoindre les grandes batailles s'ils ont envie de rejoindre les grandes batailles, de réhabiter, en échange de signer un traité d'allégeance aux gobelins. Ce qui va se passer donc dans l'extension, puisqu'il y a une race choisit d'envoyer des émissaires, donc un peu de tout, des assassins, mais bon, ça les gobelins le découvriront plus tard, pour signer le traité et donc voir comment ça se passe pour le retour sur le continent principal.
C'est ça qui fait l'arrivée de cette nouvelle race.
Exactement, c'est le traité de Kamakor qui est le nom d'extension. On risque de raccourcir le nom d'extension à juste Kamakor, mais bon, on verra. C'est ce qui fait le background et l'arrivée de cette race-là. C'est-à-dire qu'elle a signé le traité, elle a le droit de revenir sur le continent. Donc elle fait du commerce et tout, mais ça on le voit pas dans le jeu, enfin pas tout de suite, parce qu'il y aura d'autres choses après. Mais en tout cas, elle joue aussi des batailles et donc il va y avoir cette nouvelle race dans les batailles.
Ok, joli. Donc ça c'est l'histoire de Gozu. Monster Games est clairement très occupé là-dessus puisque l'extension n'est pas encore sortie, il y a les comics à développer, mais est-ce que vous avez déjà une vision sur la suite? Est-ce qu'on va continuer sur Gozu ou il y a d'autres jeux qui vont sortir?
Alors la suite, en fait on va s'adapter, c'est-à-dire qu'on a très certainement un jeu de plateau Gozu entre septembre et décembre, donc qui est un jeu de plateau je dirais à la Gozu, c'est-à-dire que dans le sens que c'est très accessible, on va pouvoir jouer à partir de 7-8 ans en famille, mais aussi entre geeks si on a envie, il n'y a pas de souci. Ça se passera dans l'univers de Gozu, on jouera les méca gobelins. Voilà, c'est un des clans de la série de base. Donc ça, c'est un jeu de société pour fin d'année. Ensuite, est-ce qu'il y aura d'autres extensions Gozu? C'est très simple, on va regarder comment marche la première extension. S'il y a du succès, s'il y a de la demande, si les traductions, parce que là il y a beaucoup de demandes de traduction en ce moment, suivent, oui, on fera bien sûr une autre extension. Par contre, on ne va pas les faire tous les 2 ou 4 mois. Ça sera tous les 6, 8, voire 10 mois, parce que le développement est très long, les dessins sont très longs, les tests sont très longs, et puis on veut pas sortir une extension tous les deux mois en disant ah non, on n'est pas un jeu de cartes pas à collectionner, alors que ça serait faux. Donc voilà.
Ok, mais donc, et donc le jeu de plateau, c'est-à-dire que quand on parle de méga gobelins, on pense à des figurines
Alors, je sais pas encore sur les figurines. Ça sera un jeu de plateau avec de l'extraction de minerais. Donc, c'est pour ça qu'on joue des méga gobelins qui viennent avec leurs robots ramener les minerais. Mais ça risque de coûter cher avec des figurines. Donc, je pense qu'on va essayer de rester sur un jeu avec prix public correct pour jouer à 4-5. Donc, je pense pas qu'il y aura des figurines. Et parallèlement à ça, on a commencé à travailler, mais 2011, on va être très occupé aussi avec ça, sur un nouveau gros produit, parce que maintenant je peux appeler Gozu gros produit pour nous, un nouveau gros produit pour 2012.
Okay, donc, mais rien à voir avec Gozu.
Rien à voir avec Gozu, parce que si Gozu continue de fonctionner, tant mieux, on continuera Gozu, on fera des extensions, on fera d'autres comics, on fera d'autres jeux, je sais pas, on fera plein de choses. Mais à un moment, il faut aussi se dire, peut-être que Gozu va s'arrêter. Et donc là, on travaille vraiment sur un truc... beaucoup plus énorme que Gozu en termes de tout pour 2012 quoi.
Okay, mais on n'en parlera pas.
On n'en parlera pas pour l'instant.
On parlera en octobre 2011.
On en parlera, je pense à Essen prochain, il y aura des protos qui tourneront. Mais je pense que ça n'existe pas et ça va être énorme.
Tu as l'œil qui pétille en tout cas. Tu as l'œil qui pétille.
Oui, non, mais c'est quelque chose d'assez assez exceptionnel.
Okay. Aussi venant du pays du soleil levant ou
pas ? Alors pas du tout, c'est un jeu qui est développé par 3 auteurs. Par contre, on l'a envoyé à Kim parce qu'on s'est dit, vu qu'il a plein de bonnes idées, s'il peut changer des choses dedans.
Kim Sato, le créateur de Gozu.
Voilà, donc si lui peut amener un œil nouveau, changer des choses, etc. Donc oui, il sera éventuellement co-auteur dessus si au final il en retire des choses. Mais ça sera... Si il est co-auteur, on verra. En tout cas, le jeu sera signé Recherche et Développement Monster Games.
Ok. On n'en dira pas plus de toute façon. Merci beaucoup, Emmanuel. Bravo. Je crois qu'on est tous un peu flabbergastés par le succès de Gozu. Non pas que ce ne soit pas justifié, mais à ce point-là, c'est quand même très impressionnant. Donc, bonne pioche.
Merci beaucoup.
Vous avez aimé ce podcast ? Alors appuyez sur la touche « Trop cool ». Vous n'avez pas aimé ce podcast ? Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.